Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi devient-on écrivain ? Par amour de la littérature, l'envie d'être lu, la nécessité de raconter une histoire, de faire bouger les lignes, sans doute tout cela, mais aussi parfois par colère. Sentiment qui a visiblement inspiré le premier livre de notre invité aujourd'hui, qui même s'il était déjà un lecteur enthousiaste, n'avait peut-être pas imaginé que sa première publication serait un cri du cœur, un cri de guerre presque, en tout cas un pavé dans la mare. Bonjour Charles Cédric Tchimi.
Bonjour Catherine.
Ce récit intitulé « Clandestinement vôtre » paru dans la collection La Grenade aux éditions Jean-Claude Lattès, est en effet le fruit d'une expérience très malencontreuse, à savoir comment vous vous êtes retrouvé non seulement sans papier en France pendant quelques années, mais surtout comment l'administration française vous a refusé maintes et maintes fois un titre de séjour, voire pire, comment elle vous a convoqué pour faire un test de, je cite, « positionnement en langue », autrement dit, de prouver que vous parliez français, vous qui êtes né au Cameroun. Est-ce que c'est cette humiliation et la rage que vous avez ressentie qui a déclenché l'envie d'écrire Charles Cédric Tchimi ?
C'est pas vraiment cette humiliation, effectivement, puisque j'ai vécu cette convocation comme telle, qui a provoqué l'envie d'écrire, mais disons qu'elle a, elle m'a encouragé dans cette voie, voilà, cette humiliation. Et je pense que tout écrivain se constitue avec par plusieurs blessures, coups de la vie, coups d'amour, coups voilà. Et donc c'est cette expérience en fait malencontreuse qui m'a poussé à écrire, voilà.
Donc vous écrivez un roman. En tout cas, c'est ainsi que s'ouvre ce livre, sur une lettre que vous adressez à l'administration, où très fâché, vous leur dites « Vous voulez savoir si je parle bien français ? Eh bien, voilà le roman que j'ai écrit, je vous le laisse lire. » Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ?
Pas vraiment. Là, c'était un pied de nez, en fait. Là, c'était, j'ai voulu faire une sorte de prélude de théâtre, voilà. Il fallait fixer le décor un peu, voilà. Parce que j'ai commencé à écrire le roman, en fait, et c'est après que j'ai reçu la lettre de convocation. Et là, comme ça, j'ai dit, ah, voilà, ça dit que je pouvais insérer ça dans mon dispositif
narratif,
voilà. Et donc,
ça ne s'est pas passé comme ça, mais à un moment, l'imagination prend le pouvoir, évidemment.
Tout à fait, voilà.
Donc, reprenons. Au Cameroun, Charles Cédric Tchimi, vous êtes diplômé en sciences politiques, mais visiblement, vous avez l'impression, en tout cas, c'est ce que vous écrivez, qu'il n'y a aucun avenir pour vous dans ce pays. Pourquoi pas d'avenir ?
Que mon narrateur n'a pas d'avenir, oui.
Vous faites une distinction, donc.
Ah oui, il y a une triple identité, auteur, narrateur et personnage. Voilà, je tiens à cette distinction, même si j'assume la part autobiographique de ce roman. Mais il faut que les lecteurs ou les auditeurs comprennent cette triple identité. Voilà. Donc, oui, j'ai un narrateur. Ou moi aussi, lui et moi, nous avons fait des études de sciences politiques au Cameroun. Et effectivement, le départ du Cameroun s'inscrit un peu dans une prise de conscience qui, effectivement, dans ce pays, il n'y a plus rien à faire, voilà, en tout cas. Rien à faire pour le narrateur, pour moi, voilà, qui voulait s'émanciper intellectuellement et se chercher, trouver une voie, voilà. Et là-bas, il trouvait que c'était bouché. Et donc, il décide d'aller voir ailleurs.
Vous écrivez même « La jeunesse du Cameroun attendait qu'on la décalcine », c'est-à-dire ?
Ben, qu'on la sorte de cet enfer brûlant dans lequel elle croupit, voilà, ou dans lequel elle brûle, voilà. Je pense que, effectivement, le narrateur ne vient pas en France juste pour, on va dire, jouir de la richesse occidentale, quoique. Mais, en fait, son désir aussi, c'est de rentrer en son pays et mener une révolution, voilà.
Oui, c'est exactement ça. Partir en France, revenir et faire la révolution. Mais comment est-ce qu'on fait la révolution ?
Ah, bonne question. Mais le narrateur, il est un peu utopiste ou idéaliste, un peu dans ses vues. Il n'a aucune conscience, sinon le désir increvable de changer la chose. Il ne sait pas comment ça se passe, voilà. Mais il sait qu'il ne peut pas supporter cet état des choses. Et donc, il se dit, il a un peu de culture française, il sait que dans ce pays-là, il y avait des révolutions, il parle français, il s'est dit, bon, peut-être là-bas, il peut trouver non seulement des grands textes, de grandes figures qui peuvent l'inspirer et retourner dans son pays, voilà.
Et donc, pour la modeste somme, enfin c'est ironique, de 1 600 000 francs CFA, soit près de 2 500 euros, il obtient un visa touriste, puisque un visa étudiant, c'est 18 millions. Mais partir comme touriste, ça veut dire aussi être obligé de revenir 4 mois après. Sauf que après avoir fini son cursus à Lyon avec la mention « très bien », c'était votre cas aussi ou pas du tout ?
J'ai une mention, mais pas très... Bon. Là, pour le coup, c'est là le côté de la fiction.
Oui. Voilà.
C'est-à-dire que les sommes, par exemple, les sommes qui sont décrites dans le roman, c'est pas les sommes exactes.
Vous voulez dire que c'est moi ou c'est plus ?
Je sais plus trop, mais je sais que c'est dans le même... C'est-à-dire que pour touriste, c'est moins, et étudiant, c'est plus.
En tout cas, c'est considérable.
Voilà, c'est considérable. Et j'ai une mention, mais pas une mention très bien, j'ai une mention, la meilleure mention de ma promotion, voilà, qui était une mention, je crois, assez bien. Voilà.
Toujours est-il que votre double littéraire, et vous aussi sans doute, Charles-Cédric Tchimi, au terme des 4 mois, personne n'a envie de rentrer. Pourquoi ?
Pourquoi ? Déjà parce que s'il rentre, il est certain qu'il ne peut plus revenir. Déjà parce qu'il n'a pas de moyens pour prétendre pour revenir. Et donc la vie là-bas, pour lui, c'est un enfer. Ici, il sait que il débute notre enfer, mais il se dit, dans quel enfer je me bats ? L'enfer de là-bas ou l'enfer d'ici ? Voilà.
Parce qu'il n'y a aucune chance qu'avec tous ces diplômes au Cameroun, vous ou lui trouviez un emploi, c'est ça ?
C'est plus qu'une question même d'emploi pour le narrateur. Il ne pose pas la question pour lui de travail ou d'emploi, quoi. Je pense que ses ambitions sont bien plus supérieures. C'est-à-dire qu'il y a... les conditions dans lesquelles ils vivent. Et puis, le narrateur, il a ses camarades qui sont au pays. Il voit comment ça se passe, quoi. Ses camarades, ses amis, il voit comment c'est la vie de ces gens. Il y a plein de ses camarades qui ont fait des études brillantes, qui trouvent pas du travail. Il y a ses amis qui sont là, qui errent de gauche à droite. Il observe ça. Bon, il s'est dit, est-ce que c'est moi qui va rentrer au pays et changer tout ça? Donc
c'est un peu le constat d'un échec pour la jeunesse camerounaise.
Oui, c'est le constat d'une jeunesse plus que africaine même qui est dans un état tragique, disons c'est comme ça. Et précisément, tout à l'heure, je parlais de jeunesse calcinée, mais le sentiment du narrateur, c'était aussi que la jeunesse africaine est orpheline. Voilà, ce sentiment d'orphelinat. Voilà.
Et donc, à partir de ce moment-là où il décide, vous décidez de ne pas rentrer au Cameroun, commence la vie sans papier, sans travail, sans logement, dans la clandestinité. Comment est-ce que vous avez tenu, vous ? Difficilement. Lui, il a la chance d'avoir une chambre dans la maison d'un de ses cousins camerounais en région parisienne. Ça a été votre cas ?
Oui, pour le coup, là, c'est vraiment... c'est mon histoire, mais l'écriture est romancée. Mais là, c'est mon histoire, effectivement. Comment j'ai vécu cette période ? Difficilement, certes, mais aussi intensément et avec beaucoup d'amour. J'ai fait de rencontres magnifiques qui m'ont permis tout de même de vivre intensément cette période. C'est-à-dire qu'à la fois, cette vie sans papier, sans pouvoir faire quelque chose, était difficile, sans argent, sans travail. Mais en même temps aussi, de par certaines personnes rencontrées par l'amour, je pense que c'est ça qui m'a permis de tenir debout et voilà, d'être là aujourd'hui.
Cette souffrance que vous racontez néanmoins avec beaucoup d'humour, sans doute parce que vous avez le recul aujourd'hui, plusieurs années après, d'y mettre un peu plus d'ironie et ce ton caustique. Mais la souffrance, elle est quand même là. En témoigne, par exemple, ce passage de votre livre « Clandestinement vôtre », Charles-Cédric Tchimi. J'aimerais bien qu'on entende votre voix qui raconte donc comment un jeune homme qui vous ressemble se retrouve à Paris presque seul.
Cette activité de sous-location, qui avait beaucoup à voir avec l'humanitaire, représentait l'essentiel des revenus de Dieudonné. Mon oncle, alors en pleine déchéance sociale, touchant le fond, admirait maintenant les talents d'entrepreneur de son fils. Les deux se satisfaisaient des miettes qui leur parvenaient de la sueur et du sang de leurs locataires sans papier. Ceux-ci suaient et saignaient comme coiffeurs, plongeurs, vendeurs de drogue, ouvriers dans le BTP, techniciens de surface chez McDonald's. Un autre suait tous les matins à Barbès, où il se réfugiait dans un cybercafé avec trois complices. Il s'était spécialisé dans le vol et la contrefaçon des cartes bleues. Il travaillait en étroite collaboration avec une bande de jeunes et ingénieurs informaticiens qui se trouvaient au Maroc. Ils appelaient cette activité le tcha-tcha. Chaque soir, vers minuit et quelques, ces sans-papiers se retrouvaient à la maison et déballaient leurs cocasses aventures. Leur théorie sur les femmes blanches, leur soif de rentrer au pays avec des sacs remplis d'argent. J'écoutais ces sacrés bonhommes d'une oreille. Je décelais pas mal de faux dans tout ce qui se racontait. Mais surtout, je jouais en silence leur débrouillardise. Nous étions tous sans papier. Même si dans ma tête, j'ai même me distingué de n'importe quel individu, et tout particulièrement d'eux. Je me convainquais que d'ici quelques mois, j'allais pouvoir reprendre le chemin des études. J'avais fait un recours auprès de la justice concernant la décision de la préfecture de Lyon, que je suivais de très près. J'avais aussi dans la foulée déposé quelques dossiers d'inscription dans les universités d'État et les écoles privées. Hélas, je perdais mon temps. En tant que clandestin, en tant que sans-papier, je ne pouvais prétendre à rien sinon à une vie de chien. Et encore, à Paris, la race canine jouit de droits extraordinaires. Elle m'était à certains égards éminemment supérieure. N'avais-je pas vu des Parisiens ramasser les crottes de chiens, puis essuyer le cul de leurs bêtes fétiches avec un soyeux papier hygiénique? Ces soins appliqués, moi, clandestin, je les observais avec beaucoup de jalousie.
Merci beaucoup pour la lecture de ce passage, cet extrait de votre roman, Charles-Cédric Tchimi. Il y a une scène aussi qui est très poignante, c'est quand votre personnage retrouve un peu par hasard un homme qu'il avait croisé à l'ambassade du Cameroun. Ah. Un homme qui n'a pas eu la chance, lui, d'avoir ce visa. Donc, il a pris le chemin de la migration, un chemin très périlleux, avec beaucoup d'obstacles. Il lui a fallu des mois, sans boire parfois, sans manger, pour enfin arriver à destination en France. Comment est-ce que vous regardez ces expériences, ces odyssées?
Le mot est très bien choisi, odyssée. C'est-à-dire que ce sont des personnages homériques, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas de jugement moraux sur cette expérience ou de conseils sur ces, parce que ce genre de personnes, je les ai connues. Je les connais d'ailleurs. On les appelait dans le jargon les bousailleurs.
Voilà. Pourquoi?
Bousailleurs, je crois que ça vient de bousa, je pense, les bousailleurs, je sais pas très bien l'étymologie de ce mot. Et il y a plein de chanteurs aussi camerounais qui ont chanté les bousailleurs, donc ce sont des gens qui prennent la route, voilà. Du Sahel, puis Maghreb, après Europe. J'ai un cousin, précisément, qui a pris cette route et ce qu'il m'a raconté sur ses camarades de route qui sont morts au désert, qui sont morts dans la Méditerranée. Je me suis senti privilégié, mais pas vraiment. C'est-à-dire que moi qui suis venu en avion, voilà, ce qu'il me racontait me paraissait encore énorme et surhumain. Donc j'ai de l'admiration pour ces gens, parce que pourquoi ils sont prêts à prendre des risques aussi énormes? Voilà, pourquoi? Ben je crois que c'est pas, ils sont pas habités par une pulsion de mort, mais par une pulsion de vie. Voilà. Donc j'ai du respect pour toutes ces âmes au destin tragique. Voilà.
Revenons à une note plus légère, puisque justement vous parliez de musique à l'instant, Charles-Cédric Tchimi. Il y a deux références dans votre livre, soit DJ Arafat ou Frédéric Chopin. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écoute maintenant?
Alors, aussi pour rendre hommage au Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, qui est décédé il y a quelques temps, qui était un grand fan de DJ Arafat, et qui lui a bercé animé plutôt mes soirées étudiantes, on est deux. Voilà, j'aimerais écouter DJ Arafat. Pour Chopin, on attendra encore.
On écoute.
J'ai la foi des mille fois, c'est la foi des mille fois.
Yo, mon enfant béni de Dieu.
Yeah, yeah, yeah. Arafat est l'enfant béni de Dieu.
dit dans la rue. J'avais même pas mes amis. Aujourd'hui ça va. Tout le monde trouve quelque chose à dire. Dans mes histoires, ça me fait mal.
De DJ Arafat, donc nous reprenons sur RFI et dans Littérature sans frontières notre conversation avec Charles Cédric Tchimi à l'occasion de la publication de son premier livre intitulé Clandestinement Vôtre chez Jean-Claude Lattès, qui raconte en effet les périples de son personnage et ses combats pour vivre en France dans la légalité, ce que lui refuse l'administration. En dépit de ses diplômes, de ses problèmes de santé et du fait que lui et vous parlez parfaitement le français puisque vous êtes camerounais. Donc, pour survivre avec 500 euros par an, soit 1,50 euros par jour, vous occupez, il occupe son temps à deux activités, séduire les femmes et se cultiver en allant soit au Collège de France, soit en lisant. Qu'est-ce qui vous a sauvé tous les deux, l'amour ou la littérature ?
L'amour égale la littérature. Non, les deux. Je dirais les deux. Mais je pense que véritablement, ce qui m'a sauvé, je pense que c'est le regard des femmes, voilà. Ce regard qui, parfois, leur regard me disait que j'étais un humain et qu'elles me regardaient avec admiration. Pas en tant que sans-papier, mais pour des raisons en tant que quelqu'un qui pense, quelqu'un qui écrit, quelqu'un. Donc c'était beaucoup, c'était un médicament dont j'avais besoin, voilà.
Et mais là, du coup, on suit les aventures de Casanova, dites donc.
Ah.
Parce que il y en a quelques-unes qui sont séduites.
Alors,
de
oui.
Tous âges, de toute profession, de toute catégorie.
Paris est une fête, disait
Hemingway.
Voilà, donc c'est une grande interrogation du livre. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il est séducteur, Casanova, ou bien c'est l'époque qui s'y prête? Voilà, parce que tout de même aussi, c'est pas des histoires d'amour toujours, quoi. C'est parfois juste des histoires très légères. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Et donc, c'est aussi une réflexion, en fait, que je voulais mener dans ce livre, en fait. Voilà. Donc, je ne pense pas que toutes les histoires dans ce livre soient des histoires d'amour. C'est parfois des histoires de chair, voilà.
Des rencontres.
Des rencontres.
Une femme vous a retenu ou l'a retenu plus que les autres, puisqu'ils ont un enfant ensemble, qui s'appelle Zadig.
Ouais.
Comme le personnage de Voltaire. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pour protéger l'identité de cet enfant? Et si c'est vrai, pourquoi Zadig?
C'est très vrai. Mon fils s'appelle Zadig. Voilà.
Quel beau prénom.
Ouais.
Et donc, en référence à Voltaire.
En référence à Voltaire. Et en référence aussi, parce que Zadig, ça veut dire sadique, le juste en hébreu, ou sadique aussi en arabe, qui veut dire la vérité, le véridique. Voilà. Et aussi, c'était pour rendre hommage, pas hommage, mais disons, c'était pour concilier mon amour de Voltaire et ses origines juives de sa mère, voilà. Et donc, on a cherché un prénom qui pouvait comme ça nous définir, ou bien donc en commun, voilà. Voilà. Donc, Zadig était ce prénom-là qui nous reconciliait, qui nous conciliait.
Et Zadig, c'est aussi le héros de ce conte philosophique, ironique.
Tout à fait.
Où on suit les aventures d'un jeune homme dans un monde oriental assez fantaisiste, voire absurde. Est-ce que finalement, vous n'étiez pas un peu Zadig, vous aussi, en arrivant en France?
Totalement. En plus, moi, j'ai beaucoup aimé et adoré. Je pense que c'est l'un des auteurs qui a beaucoup eu d'influence sur moi. Voltaire, que j'ai beaucoup lu au Cameroun. Et que je me rappelle que quand j'étais dans l'avion le 14 avril 2014, en venant en France, j'avais entre mes mains le livre de Voltaire. Voilà. C'était Candide, je crois. Candide, oui. Voilà. Et donc, je lisais ça dans l'avion, voilà. Et aussi en France aussi, tous les matins, ça m'arrive de prendre mon Brevet Vert de Voltaire. Je lis quelques phrases, voilà. Cet esprit ironique, féroce, j'aime bien, voilà. Je pense qu'il représente bien le genre d'esprit que j'aime et que j'apprécie. Et voilà.
Et d'où le ton de votre propre écriture, qui est aussi caustique et qui va faire railler un peu, qui va titiller.
Oui, alors inconsciemment, oui. Je pense que c'est ce qu'on appelle, je crois, l'influence, quoi. Parce que quand j'écris ce livre, je ne pensais pas à Voltaire, quoi, précisément. Mais je pense que ayant un peu beaucoup lu Voltaire, je pense que il s'infuse un peu dans mon écriture et dans mon voilà.
Alors vous citez aussi Gogol, Zweig, Kuruma, Bataille, Baudelaire, et un seul titre contemporain, à ma connaissance, Sanglots de l'homme blanc, qui est un livre de Pascal Bruckner, philosophe français. Il n'y a pas d'autres auteurs contemporains qui ont trouvé grâce à vos yeux,
Charles Cédric Tchilly ? Ils sont pleins.
Mais ils sont où ?
Alors, ils ne sont pas là pour une simple raison déjà, parce que moi, effectivement, j'étais un clandestin, j'étais sans papier, disons que donc, je n'avais pas cité dans cette cité. Voilà. Et moi, je me réfugiais auprès plus des anciens, première chose. Et c'était le livre qui m'était plus accessible, en fait. Donc, j'ai peu lu les auteurs contemporains, non pas par mépris ou bien par... non, c'est parce que leur littérature m'était moins accessible.
Pourquoi ? Vous ne pouviez pas aller en bibliothèque, par exemple ?
Je ne pouvais pas la bibliothèque, je ne pouvais pas les acheter, première chose. Et donc, moi, j'avais ma pile d'anciens livres, voilà. Et donc, et aussi parce que, peut-être par me protéger aussi, je crois.
Protéger de quoi ?
Je sais que je voulais écrire, quoi. C'était des potentiels, pas concurrents, mais des potentiels gens que disons que j'aurais voulu lire. Et je lis ces gens maintenant, voilà, mes contemporains, actuellement, avec le cœur tranquille maintenant. Voilà. Et je découvre, il y a bien des auteurs contemporains qui me plaisent beaucoup. Mais c'est vrai qu'à l'époque, que j'étais sans papier, ou au Cameroun même déjà, je préférais me confiner aux anciens écrivains, voilà. Je me protégeais de je sais pas quoi, mais c'était une stratégie, voilà.
Et aujourd'hui, vous lisez qui, par exemple ?
Ah bah déjà, je lis les auteurs de la collection de mon éditeur, déjà. Et j'ai lu aussi, vous avez reçu la dernière fois, l'Ivoirien Yaya...
Diomandé.
Ah oui, que j'ai
lauréat beaucoup, du premier prix littéraire Voix d'Afrique.
Tout à fait, oui, j'ai beaucoup apprécié son roman. Et je lis aussi les auteurs africains, notamment des femmes, qui, beaucoup la littérature africaine aujourd'hui, elles prennent...
Qui, par exemple ? C'est pas un piège, hein ?
Une dame le pion, la Nigériane...
Chimamanda Adichie.
Oui. Même si je ne suis pas très d'accord avec elle, mais j'adore la lire, voilà.
Pourquoi ? Parce que c'est une féministe ?
Un peu. disons que... en tout cas, elle est intéressante.
Et donc, après avoir suivi toutes les pérégrinations de votre personnage et de vous un peu, évidemment, voilà ce que vous écrivez. Sans papier, inéligible à la vie ordinaire, à l'existence normale, à la vie heureuse, je décidais de devenir écrivain. Est-ce que justement, c'est parce que c'est le seul métier où on n'a pas besoin d'autorisation ?
Oui, en première partie, et deuxième partie, parce que je pense que c'est le métier tout de même, je pense qu'il faut éprouver la vie ou être éprouvé de la vie tout de même. Je pense qu'on ne peut pas être écrivain si on n'a pas vécu avec ce que j'ai traversé précisément, même si ça n'a rien de, il y a plein de gens qui le vivent aussi, mais je me sentais dans l'obligation de témoigner, de dire quelque chose qui pour moi était de l'ordre de la vérité, voilà. De la vérité romanesque, peut-être, comme dirait Gérard, voilà. Vérité romanesque, voilà.
Non, mais ce qui est intéressant dans votre définition, c'est qu'on croit comprendre que être écrivain, justement, c'est être sans papier, ne pas avoir une vie ordinaire, ne pas avoir une existence normale et ne pas être heureux. C'est ça votre définition?
Ah, pas du tout. Non. Alors, ça peut être sans papier, oui. Être sans papier dans le sens de ne pas appartenir à une nation, voilà. Oui. Mais pas être heureux, si, moi je pense que j'ai eu des rayons de bonheur, j'ai été heureux, mais difficilement, voilà.
Et pour finir alors, ce livre met l'administration française face à ses contradictions, face à ses impasses, face à ses erreurs. Est-ce que vous leur avez envoyé ou pas ? Est-ce que vous vous êtes présenté au test pour finir ?
Oui, je me suis présenté au test et j'étais malade. Voilà, c'est de salle où je voyais des Soudanais, des Afghans guetter ma copie. Moi, j'avais l'impression d'être un savant de la langue française. Or, c'était des questions du niveau CM1, quoi. Voilà. Et les pauvres, je trouvais que c'était, alors pour eux, plus une humiliation, en fait, même pour eux que pour moi. Voilà. Parce que je trouvais que c'est pas comme ça qu'ils apprendraient la langue française, pour le coup. Donc, c'était une expérience tortueuse et difficile à regarder, à supporter. Donc je me suis rendu parce que je n'avais pas le choix.
Et vous avez passé le test haut la main?
J'ai passé le test haut la main avec les filles assistantes du jury. Et donc je trouve que oui, effectivement, l'administration française, elle m'a traité d'une drôle de façon. Pas seulement moi, elle traite des gens d'une drôle de façon. Voilà.
Mais c'est surtout aussi souligner l'ignorance des liens que nous avons, France et Cameroun, à commencer par cette langue que nous avons en partage.
Tout à fait, tout à fait. Et effectivement,
la c'est une langue qui est parlée, qui est aimée, qui est réinventée dans ce pays, partout, à Douala, à Yaoundé, partout. Enfin, c'est une langue qui vit.
Tout à fait d'accord. Et je pense que c'est même, alors, je pense que j'ai même plus écrit, d'ailleurs, pour la, par amour de la langue française que parce que je voulais raconter mon histoire. Je pense pas que parce que mon histoire, effectivement, je pense que il y a des clandestins qui rencontrent des histoires plus, rocambolesques que la mienne, mais je pense que moi, ce qui m'a fait écrire précisément, c'est l'amour de cette langue que j'ai voulu un peu envoyer un pied de nez à ceux qui défendent cette France et que je leur envoie ces messages-là que je peux la défendre aussi mieux que vous, voilà, ou autant que vous. Voilà, c'est un peu ça.
Maintenant que vous êtes en règle, vous avez un titre de séjour. Vous sentez une différence, Charles-Cédric Otchimi ?
Alors, je sens que j'ai baissé la garde. Je me sens... c'est plus le même Charles. Et c'est bizarre parce que je crois que je suis plus vulnérable sur certains points de vue. Précisément plus psychologique, je pense, qu'avant. Parce que autrefois, quand j'étais clandestin, j'étais constamment en guerre. Voilà. Là, je pense que j'ai... Depuis que j'ai les papiers, je me suis un peu calmé. Je me suis pacifié, première chose. Et... Mais je pense que j'ai aussi des relations maintenant plus cordiales envers les gens. Je suis ouvert à l'amitié. Je suis ouvert à la vie en communauté. Alors que clandestin, je pense que j'étais très... marginal et solitaire.
Et justement, vous parliez du Cameroun à l'instant. Vous y êtes retourné ?
Pas encore. J'attends que l'État du Cameroun m'invite et m'envoie le billet d'avion.
Pourquoi ? Vous êtes persona non grata ?
Non, c'était une rigolote. Non, je ne suis pas persona non grata. Je compte y retourner bientôt, cette année. Ouais. Avec la pandémie qui était un peu difficile de rentrer, de retourner. Mais j'ai hâte de rentrer dans mon pays et de présenter ce livre aux Camerounais. Parce que j'aimerais être lu aussi de ce côté-là. Cameroun, Afrique, et voilà.
Évidemment. Merci beaucoup, Charles-Cédric Otchimi. Je rappelle le titre de ce premier roman, Clandestinement Vôtre, qui est apparu dans l'excellente collection La Grenade, aux éditions Jean-Claude Lattès.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. À l'heure sur RFI.